Contrairement à ce qu'espérait M. Galwin, les journaux du lendemain, s'ils racontèrent l'abracadabrant incident du général Grant, restèrent muets sur le nom des mystérieux parieurs. Ceux-ci, malgré la promesse faite au capitaine Kraft, préférant sans doute rester inconnus devant l'émotion provoquée par leurs gestes. L'opinion publique pourtant n'était pas montée contre eux, mais simplement curieuse de connaître les noms de gentlemen aussi hardis, bien que tout le monde s'accordât à trouver que leur pari dépassait un peu les bornes de l'originalité, même en Amérique. L'enquête menée par M. Galwin et par la tournée de Staten Island restait vaine. Nul, parmi les passagers et parmi l'équipage du général Grant, ne connaissait rien des mystérieux parieurs. Le récit du capitaine Kraft, corroboré par tous les témoins, était le seul indice que la justice eut entre les mains. C'était maigre. Seuls deux hommes se doutaient de la vérité, M. Galwin et James Molest Scott. Le premier n'avait que de vagues craintes, mais le second, dans une interview retentissante qu'il accorda le lendemain à un reporter du Moon's Magazine, ne craignit pas d'affirmer que toute l'histoire du General Grant avait été machinée par John Strobins. John Strobins est à New York, concluait le chef de la Sûreté de San Francisco, qui avait sur le cœur son insuccès les jours précédents. Nul autre que lui n'est capable d'avoir arrangé toute cette histoire. Le but de John Strobins, oh, je l'ignore, mais on le saura avant peu, et le regrettera de l'avoir si peu aidé, lorsque j'ai tenté de m'emparer du détective cambrioleur. Mon devoir m'obligeant à regagner San Francisco, je souhaite bien du bonheur à la police new-yorkaise, elle en a besoin. La fureur de M. Galwin en lisant ces lignes perfides fut telle qu'on s'imagine. Dans un journal du soir, il fit paraître lui aussi une interview dans laquelle James Molest Scott était tout simplement traité de rêveur, de naïf et d'imbécile, tout au plus bon à balayer un poste de police et encore. Infortuné Galwin. Si en arrivant à Fort Hopkins, il eût fait fouiller les anses avoisinant le port, il eût certainement trouvé le mot de l'énigme qui surexcitait New York et fait le plus beau coup de sa carrière. Mais on ne s'avise pas de dire de tout. Le chef de la police de New York n'y avait pas songé. Or, le mystérieux canot automobile, après avoir recueilli les 12 passagers du General Grant, avait tout simplement gagné à toute vitesse une anfractuosité de rocher situé à moins d'un demi-kilomètre du quai où le ferryboat devait accoster 10 minutes plus tard. Cependant, à peine le général Grant était-il arrivé à Fort Tompkins, que ses passagers, furieux et impatientés du retard qui venait de leur être infligé, s'étaient rués vers la gare, située derrière le fort, à environ 600 mètres du rivage. Leur troupe s'éparpilla bientôt. Les hommes mariés marchaient le plus vite, sans doute dans la crainte de la réception les attendant au logis. Derrière eux venaient les jeunes gens, puis les femmes et enfin les vieillards. Pour mettre le comble aux infortunes des passagers du général Grant, une petite pluie fine s'était mise à tomber. Parmi les retardataires, un homme d'une quarantaine d'années marchait seul. Visiblement, ses préoccupations étaient tout autres que de prendre son train. Parti pour Jersey City, où des amis l'avaient invité à dîner, M. Jim Sharper, financier notoire et directeur de la fonderie d'argent La Estrella de Plata, de Magdalena, Mexique, pensait à ses affaires. Il comptait prendre le train pour New York. Il en serait quitte pour s'excuser en invoquant le ridicule incident qui avait retardé le général Grant. Tout à coup, sans qu'il s'en fût aperçu, deux hommes le rejoignirent. Lorsqu'il les vit, il le touchait presque, un de chaque côté. Il s'arrêta net et s'écria: « Mais que me voulez-vous? « Chut! » dit l'un des inconnus à voix basse, « chut! Ou je vous assomme, James Harper. » Le directeur de la Estrella de Plata ne cria pas, car il vit que son interlocuteur tenait à la main une sorte de boudin de caoutchouc et le brandissait d'un air résolu et déterminé. « Mais comment voulez-vous? » répéta-t-il. « Vous le saurez, suivez-nous. N'essayez pas de fuir ou de crier, hein? Si vous voulez mon portefeuille... Oh, nous ne sommes pas des gens comme vous, Harper. Silence et en route. » Le financier n'insista pas. Docilement, il suivit les deux hommes. À travers champs, ceux-ci le menèrent vers le rivage. Il dut dégringoler une suite d'éboulis rocheux et, soudain, se trouva devant un canot automobile en qui il reconnut celui sur lequel s'étaient enfuis les mystérieux inconnus du général Grant. Il poussa un cri de stupéfaction. « Voulez-vous que je vous assomme? » demanda un de ses agresseurs d'une voix rude. Harper demeura quoi? Toujours sous la menace de la matraque, il dut s'embarquer dans le canot. Les deux hommes sautèrent à bord derrière lui et tout aussitôt la rapide embarcation qu'un marin maintenait avec une simple gaffe tourna son avant vers le large et s'enfonça dans la nuit. Un quart d'heure plus tard, elle accostait un wharf de Brooklyn. Une voiture automobile attendait là. James Harper, qui avait été ligoté et bâillonné pendant la traversée, il fut hissé. Ses deux gardiens s'assirent à ses côtés, cependant que le véhicule démarrait à toute allure. Pendant tout le trajet, pas un mot ne fut échangé. James Harper, bâillonné, ne pouvait parler. Quant à ses gardes du corps, ils semblaient devenus muets. À mesure que l'auto avançait, le directeur de la Estrella de Plata devenait de plus en plus nerveux. Enfin, la voiture s'arrêta dans une rue déserte bordée de cottages élégants, mais que Harper, malgré son désir, ne parvint pas à identifier. En silence, il fut enveloppé dans un manteau et, porté par ses gardiens, franchit une grille, traversa un petit jardin et fut enfin déposé sur le canapé d'un salon où ses deux surveillants le rejoignirent. L'un d'eux tourna un commutateur fixé au mur. Les trois ampoules d'un lustre électrique s'irradièrent. « Vous me reconnaissez, monsieur Harper? » s'écria alors un des inconnus, jeune homme d'une vingtaine d'années, à la physionomie douce et triste. « Je suis Georges Eugène Bénédicte Filmer, votre victime. » Et moi, dit le second inconnu, je suis John Robbins. En entendant le jeune Filmer parler, Harper avait blêmi. Il frissonna lorsque John Robbins se nomma. Eh bien, maintenant que les présentations sont faites, poursuivit le détective cambrioleur, mettons-nous à notre aise. Je vais vous délier, cher monsieur Harper. Mais je vous avertis qu'il est de votre strict intérêt de ne pas tenter le moindre geste désobligeant. Nous sommes entre gentlemen, n'est-ce pas? Nous avons à causer. Causons. J'ai eu assez de peine à vous ménager ce rendez-vous pour ne pas vouloir qu'il soit décisif. Vous me connaissez sans doute de nom, cher monsieur Harper. Pour moi, je vous avoue qu'il y a 3 jours encore, j'ignorais votre existence. Mais procédons par ordre. Dextrement, John Robbins débarrassa Harper de son bâillon et de ses liens et l'aida à se dresser sur son séant. Voulez-vous prendre un cordial, cher monsieur? Dit-il. Non, merci, fit Harper sec. À votre aise. Vous êtes d'ailleurs d'un tempérament solide. Mais que voulez-vous? Ben, vous me l'avez déjà demandé. Mais maintenant, oui, vous devez le savoir. Monsieur Filmer va préciser vos souvenirs. Ce que je vous veux, voleur, s'écria le jeune Filmer en se levant. Je veux que vous me restituiez les 2000 actions de l'Estrella de Plata que mon père vous avait confiées avant de mourir. Voilà 3 fois que je vous les réclame. Et par 2 fois, vous avez nié ce dépôt et m'avez fait jeter à la porte de chez vous. Alors, à bout de patience, j'ai prié M. John Sobin de venir à mon secours. Vous vous associez à un cambrioleur. C'est pas une raison pour que je me laisse voler, railla Sharper. Pas d'insultes, cher monsieur, dit doucement John Sobbins. N'oubliez pas que vous êtes chez moi, à ma discrétion entière, et que je puis, s'il me plaît, vous faire bâtonner. Mais laissons cela, et n'embrouillons pas l'affaire qui nous réunit ici. Elle est simple. Monsieur David Filmer, décédé il y a 4 mois, vous a confié, vous étiez son ami intime, 2000 actions de la Estrella de Plata valant environ 100 dollars chacune, soit 200 000 $. Et ainsi que vient de vous le dire Monsieur George Filmer, vous avez profité de ce que ce jeune homme ne possédait pas de reçu de vous pour nier ce dépôt. Et en désespoir de cause, Monsieur Filmer s'est adressé à moi pour venir à bout de votre mauvaise foi. Nous touchons au but. Pour vous avoir ici, pour rejoindre Monsieur Filmer, j'ai eu beaucoup de tracas. Oh, je les évalue à 100 000 $. Je conclus, payez 200 000 $ ou rendez-nous les 2000 actions à Monsieur Filmer et versez-moi 100 000 $ et vous êtes libre, voilà. James Sharper éclata de rire. Vous me prenez pour un jobard. Vous n'aurez rien, rien, pas un cent. Vous entendez, John Sobins, tout fin que vous êtes. Tenez, j'aime autant vous le dire. C'est vrai, oui, je détiens indûment les 2000 actions du défunt David Filmer. Il vaut mieux que ce soit moi qui les ai. Que ce jeune imbécile. Eh, je les garde. C'est vous dire que je ne suis pas assez fou pour vous verser gratuitement 100 000 $. Oh, je ne prétends rien gratuitement, cher monsieur. Ces 100 000 $, je les ai gardés. Et je les ai gagnés. Monsieur Filmer, ne sachant où me rejoindre, avait fait insérer une annonce dans un journal. Ayant dû répondre par la même voie, j'ai dû, pour dépister la police, faire brancher une ligne téléphonique sur celle d'un malheureux dentiste. Vous en avez lu, n'est-ce pas, le récit que j'ai envoyé aux journaux? J'ai dû ensuite faire une enquête qui m'a permis de vous faire envoyer une invitation pour aller à Jersey City. Il m'a fallu après imaginer la comédie du ferryboat pour vous faire débarquer à Fort Tompkins, où je comptais vous enlever avec facilité. Croyez-vous que toute cette mise en scène ne vaut pas 100 000 $, cher monsieur? Elle vaut plus, elle n'a pas de prix. Et je ne compte pas vos insultes dans mon total. Qu'en pensez-vous? Oh, je pense que vous pouvez vous fouiller, John Robbins. Dit simplement James Sharper, narquois. Ah, si vous pensez cela, vous vous trompez, mon bonhomme. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Seulement, je vous avertis qu'à partir de demain, j'augmenterai la somme de 10 000 $ par jour. Oh, vous êtes assez riche pour tenir le coup un mois. Je prendrai patience. La fonderie de la Estrella de Plata est assez prospère pour me dédommager. Ainsi, vous refusez de nous payer, n'est-ce pas? Sans répondre, Sharper haussa les épaules d'un air méprisant. Très bien, nous voici fixés, dit John Stubbins. Vous êtes libre, monsieur Sharper. Mais jamais je... s'écria Filmer, stupéfait de ces paroles. Laissez partir, monsieur, fit John Stubbins en retenant le jeune homme. Partez, maître Sharper, au revoir. Et vous pouvez signaler cette maison à la police. C'est le 122 de Baxter Street. Les propriétaires sont, je crois, en villégiature aux Bermudes. Bonsoir. Jim Sharper, ahuri, se leva. Il regarda John Strobbins, hésita une seconde et brusquement bondit vers la porte, l'ouvrit et disparut. « Bon voyage !» fit narquoisement le détective cambrioleur. James Wallace Scott, on le voit, avait été bien inspiré en attribuant à John Strobbins la responsabilité de l'incident du général Grant. John Strobbins, en effet, après avoir fait paraître dans le New York Daily News l'annonce priant le mystérieux GEB de lui téléphoner le lendemain à 3h au numéro 10-18-91, lequel était celui du dentiste Chadburn, avait tout simplement fait brancher un fil sur celui du praticien et fait aboutir le dit fil dans la maison qu'il occupait près de l'East River. C'est ainsi qu'il avait pu, sans crainte d'être dérangé, causer avec G.E.B., c'est-à-dire George Filmer, conversation brève et dans laquelle John Strobbins s'était borné à fixer un rendez-vous à Filmer pour le soir même. Après quoi, il n'avait pu résister au plaisir de bafouer Maurice Scott qu'il devinait à l'affût chez Chadburn. D'un café voisin, il avait sonné le dentiste après avoir fait démonter par un complice le branchement qui reliait le téléphone de Chadburn au sien. Il avait ainsi pu causer avec Maurice Scott et Galwin et s'était diverti à leurs dépens. Le soir même, il rejoignait Filmer au rendez-vous convenu près du Central Park. John Strobbins, redoutant une traîtrise, toujours à craindre, était venu seul, mais son automobile le suivait, garni d'une demi-douzaine de solides gaillards prêts à intervenir. Ces précautions furent inutiles, Filmer était de bonne foi. John Strobbins, l'ayant reconnu au signalement qu'il lui avait donné, l'invita à prendre place dans son auto et l'emmena dans un hôtel. « Parlez, lui dit-il une fois qu'ils furent seuls dans une chambre close. » Le jeune Filmer ne se fit pas par prier. À bout de patience et d'efforts, berné, bafoué, ruiné, il venait demander au détective cambrioleur de l'aider à faire rendre gorge au financier Jim Sharper, qui, profitant de ce que Filmer n'avait pas de reçu, refusait de lui restituer les 2000 actions de la Pestrea de Plata confiées par feu David Filmer. « Si vous réussissez, monsieur, avait terminé George Filmer, la moitié de cet argent est à vous, et je vous devrai encore une éternelle reconnaissance. »« Regardez tout, jeune homme !» avait répondu John Strobbins. « Je n'ai pas l'habitude de me faire payer lorsqu'il m'arrive de commettre une bonne action. Pour votre reconnaissance, ne me la promettez pas. Vous pourriez ne pas tenir votre promesse. Oh, monsieur, laissons cela. Revenez me voir demain au Washington Palace. Je vous dirai ce qu'il y a à faire. À propos, vous me semblez un peu démuni d'argent. Prenez ce portefeuille. » « Prenez, je me ferai rembourser par Sharper, soyez sans crainte. À demain donc, à 5h, Washington. » Et John Strobbins, ayant déposé sur la table un petit portefeuille vert, sortait sans vouloir entendre les remerciements de son protégé. Grâce aux nombreuses ramifications qu'il possédait dans tout New York, il ne lui fut pas difficile d'épier James Sharper et de lui faire expédier une dépêche signé du nom d'un de ses amis de Jersey City. C'est ainsi qu'il avait pu attirer le financier à l'endroit où il l'attendait, s'emparer de lui sans difficulté ni scandale, et l'emmener dans une maison de Brooklyn dont les propriétaires étaient absents. Cependant, en voyant John Strobbins rendre si bénévolement la liberté au directeur de la Estrella de Plata, George Filmer était resté ahuri. Il ne comprenait plus. « Mais jamais ce bandit ne vous rendra, » dit-il. « Prenez patience, jeune homme, et ne restons pas ici. Avant 10 minutes, Sharper va être de retour avec la police. Venez. » George Filmer, sans trop savoir ce qu'il faisait, suivit le détective cambrioleur et prit place près de lui dans une automobile qui, sur un coup de sifflet de John Slobbins, était venue aussitôt se ranger devant la porte de la maison. « Nous allons chez moi nous reposer, » fit le détective cambrioleur, tandis que l'auto bondissait en un démarrage foudroyant. « Mais je ne comprends pas, » murmura Filmer. Vous allez comprendre, jeune homme. Sachez que Sharper doit être en liberté pour que nous puissions avoir raison de lui. C'est un homme méfiant et têtu. Il se serait plutôt laissé tuer que de vous restituer le dépôt que lui a confié votre père et qui constitue la moitié ou pas loin de sa fortune. Or, je crois, sans m'avancer, qu'il ne vous a pas couché sur son testament, donc... Vous n'avez rien à gagner à sa mort. Prenez patience, vous dis-je. Toutes mes précautions sont prises. Avant de m'emparer de Sharper, j'ai voulu, comme disent les sollicitors, tenter avec lui un arrangement à l'amiable. Il a refusé, tant pis pour lui. Cela lui coûtera encore plus cher. Mais que comptez-vous faire? Vous le verrez. Nous reposer d'abord. Il se fait tard. Enfin, d'ici 2 semaines au plus, vous aurez vos titres ou leur équivalent. C'est le principal, n'est-ce pas? All right. Quant à moi, je compte extraire 150 000 $ de ce Sharper. Convenez que je n'aurais pas perdu mon temps. » Et John Slobbins, ayant allumé une cigarette, ne s'occupa plus que d'en tirer d'odorantes bouffées de fumée. George Filmer respecta son silence. Quelques instants après, l'auto stoppait devant une luxueuse maison de la 22e rue. James Sharper, cependant, dès qu'il s'était vu dehors de la maison de Baker Street, avait, comme l'on dit, pris ses jambes à son cou. Sa première idée avait été d'aller se plaindre à la police, mais il s'était presque aussitôt ravisé. Se plaindre de quoi? On ne lui avait rien pris. On ne l'avait molesté en rien. Alors, que dire? Pour porter plainte, il lui fallut parler de John Slobbins et de George Filmer. Et Sharper, qui ne se sentait pas la conscience très tranquille, avait jugé que le mieux était de ne rien dire. Dans une rue voisine, un tramway passait. James Sharper y prit place. Et tout en roulant vers New York, il réfléchit. Tant qu'il ne s'était agi que de lutter contre le jeune Filmer, ça avait été un jeu. Mais du moment que John Slobbins s'en mêlait, la partie devenait risquée. Avoir contre soi un tel homme, qui pour se ménager un simple entretien n'avait pas craint de s'emparer d'un ferryboat, c'était beaucoup. James Sharper en demeura préoccupé. Il regagna sa demeure, dîna sans appétit, se coucha, mais ne put dormir de la nuit. Il passa toute la journée du lendemain à relire la collection des journaux des 2 années précédentes. Ils étaient remplis des exploits de John Slobbins. Mais que faire contre un tel homme? Un fait surtout tracassait Sharper. John Slobbins, le tenant à son entière discrétion, l'avait laissé partir. Mais pourquoi? Certes, le détective cambrioleur avait ses raisons pour agir ainsi, mais quelles raisons? La peur? Non. Alors quoi? James Sharper se le demanda en vain, et son inquiétude s'accrut. Dans le combat qui commence, se dit-il, John Slobbins sera sûrement le plus fort. Le mieux donc est de ne pas accepter la lutte. Se dit-il. Ne pas accepter la lutte, il y avait 2 façons. La première était de capituler, d'accepter leurs conditions du détective cambrioleur, de rendre les 2 000 actions volées et de verser les 100 000 $ demandés. Oh, mais cela jamais! Le deuxième était de fuir, réaliser sa fortune et quitter les États-Unis. James Sharper se sentait somme toute assez riche pour se reposer. Bon, j'irai visiter l'Italie, pensa-t-il. C'est un pays que l'on dit admirable, et pendant ce temps, John Shorbins m'oubliera. Réaliser sa fortune, c'était plus facile à dire qu'à faire. La fortune de James Sharper consistait d'abord en les 2000 actions de la Estrella de Plata volées à feu Filmer, et en lingots d'argent qu'il conservait dans les caves de fonderie pour les vendre à la première hausse de ce métal. Vendre les actions, mais il fallait du temps pour cela. Et John Strobin, sûrement, n'allait pas s'endormir. James Sharper fut vite décidé. En plus des lingots d'argent lui appartenant, l'usine de la Estrella, renfermant environ 15 000 kilos du précieux métal, soit en tout 22 000 kilos d'argent. Or, John Sobins, le financier se le rappelait, avait dit « La fonderie est assez riche pour me dédommager !» Ce qui équivalait à déclarer « Je sais qu'il y a de l'argent à la fonderie et je vais m'en emparer. » À cette pensée, James Sharper éclata de rire. « Voilà pourquoi John Sobins était si assuré. Pauvre homme, sa réputation est surfaite, je crois. » Il aime trop parler. Prendre 22 000 kilos d'argent, non mais... D'ici 8 jours, mon bonhomme, ce trésor sera en sûreté dans les coffres de la Californian Bank à Frisco. Et tu pourras courir avec ce petit idiot de Filmer. Pour moi, je filerai en Europe où je pourrai tranquillement faire vendre mes titres tout à loisir. » Tout heureux de ce raisonnement, le directeur de la Estrella de Plata courut au post-office et lança le télégramme suivant, soigneusement chiffré. « La Estrella de Plata, Magdalena, État de Sonora, Mexique. Pablo Bernadez, sous-directeur. Préparez tout l'argent qui est dans les caves pour être expédié immédiatement à Frisco. » Vous envoie un wagon blindé, Sharper, superintendant. Celle-ci envoyée, le financier fit partir une autre dépêche, également chiffrée, à l'adresse du directeur du Southern Pacific Railroad à San Francisco, le priant d'envoyer d'urgence à Magdalena un wagon en acier blindé pour y prendre 22 000 kilos d'argent destinés à la Californian Bank de San Francisco. En sortant du post-office, James Sharper était radieux. Il se repentait bien de s'être tant tourmenté pour une chose si simple. Cependant, comme trop de précautions ne nuit pas, il prit le soir même le train pour San Francisco afin d'y attendre là l'arrivée du wagon contenant les 22 000 kilos d'argent. Pour plus de sûreté, il s'était grimé et déguisé afin de dépister John Strobins au cas où celui-ci l'eût suivi. Mais c'était bien inutile. James Sharper arriva à San Francisco sans avoir eu aucune nouvelle du détective cambrioleur. Le directeur de la Southern Pacific Railroad, à qui il alla aussitôt rendre visite, l'avisa qu'il avait expédié à Magdalena un wagon blindé et que celui-ci, dûment chargé, était reparti la veille pour San Francisco, où il arriverait d'ici 3 jours. Tout allait donc au mieux des désirs du directeur de la Estrella de Plata. Une fois de plus, il rit de ses craintes et méprisa John Strobins. Il avait tort. Une première dépêche vint troubler la tranquillité de James Sharper. Le train auquel était attelé le wagon d'acier contenant les 22 000 kilos d'argent avait failli dérailler près de San Lorenzo. La bogie avant de la locomotive ayant sauté hors des rails, remise en place avec une roue terre ardue, la machine avait dû ralentir sa vitesse. De tout ceci allait résulter un retard de plus de 12 heures pour l'arrivée du précieux wagon à San Francisco. Le jour suivant, l'inquiétude de James Sharper se changea en angoisse lorsque, ayant été rendre visite au directeur de la Southern Pacific Railroad, celui-ci lui avoua, très pâle, que le train en question, qui eût dû passer la veille à 6 heures du soir à la station de Los Altares, n'y avait pas été vu. Il n'avait pas été vu à Los Altares ni nulle part. Pardi à midi de Nogales, il avait disparu depuis. Disparu, un train composé d'une locomotive forte de 2500 chevaux et de 9 wagons. Bon, c'était fantastique. « Vous moquez de moi !» s'écria James Sharper dès que son interlocuteur eut fini de parler. Il était livide. « Mais lisez, voilà les dépêches !» répondit le directeur de la Southern Pacific. Le financier dut se rendre à l'évidence. « Vous avez fait assurer cet envoi ?» demanda M. Gibson. C'était le nom du directeur de la Southern. « Eh non !» L'on me demandait une prime de 30% à cause des risques causés par l'agitation qui règne au Mexique. 30%, c'est fou. Bien, vous avez eu tort, cher monsieur, car c'est maintenant 100% que vous allez perdre. James Sharper ne trouva pas de réponse. Pour lui, le seul coupable était John Stubbins. John Stubbins, dont l'astuce infernale avait déjoué ses précautions. Toute la journée, il resta dans le bureau de Gibson, attendant de nouvelles dépêches. Son anxiété était extrême. Plus il réfléchissait, plus il se convainquait que John Stubbins s'était emparé du train. Mais comment? Il ne le savait pas, mais sa certitude restait entière. À 7 heures du soir, comme M. Gibson se levait pour quitter son bureau, James Sharper, la mort dans l'âme, l'imita. Derrière le directeur de la Southern Pacific, il se dirigea vers la porte. C'est à ce moment qu'entra un employé. Il tenait en main une dépêche qu'il tendit à M. Gibson. Sharper, le cœur battant à coups précipités, vit le directeur de la Southern ouvrir le télégramme et le lire. « Tenez, » dit Jimson, dès qu'il eut terminé, « ceci vous concerne aussi, Monsieur Sharper. » Le directeur de l'Estrella de Plata prit le papier d'une main tremblante. La dépêche contenait ces mots. « Révolutionnaire du général Lobo del Afogado, son maître de tout le nord de la Sonora. » Ils ont arrêté les trains et l'on croit notamment qu'ils se sont emparés du convoi dans lequel se trouvait un wagon d'argent provenant de la fonderie La Estrella de Plata de Magdalena. Ce train, à la suite de je ne sais quel malentendu, se dirigeait vers Camoron au lieu d'aller vers Benson. J'ai essayé en vain de télégraphier à Norades, le filet coupé. Watts, chef du district de Magdalena. Oh, ce n'est pas John Stubbins, c'est pas John Stubbins, s'écria Sharper hagard. Mais qu'est-ce que vous me chantez avec votre John Stubbins, lui cria Gibson, qui déjà avait porté à son oreille le récepteur du téléphone posé sur son bureau et lançait des ordres dans toutes les directions. Taisez-vous, allez-vous-en, vous voilà fixé, eh bien. « Me faites pas perdre mon temps !» Le directeur de la Southern Pacific n'avait pas fini de parler, qu'on lui apportait 2 autres télégrammes. Il les lut d'un regard et grommela à l'adresse de Sharper que l'angoisse et la curiosité clouaient sur place. « Mais la dépêche de Watts est confirmée par notre consul à Hermosillo. Les insurgés du général Lobo se sont emparés de notre train et de votre argent. » « Le gouvernement fédéral est prévenu. Je crois que vous voilà renseigné, Monsieur Sharper. » Oui, James Sharper était renseigné, et copieusement. Il se précipita vers la porte comme un fou et courut tout d'une traite jusqu'à son hôtel, où il eut la joie de trouver un télégramme à son adresse, signé du sous-directeur de la fonderie et confirmant l'enlèvement du train par le général Lobo. Le directeur de l'Estrella de Plata eut un rire de fou. Ha si John Sobbins lit cela, il doit être heureux. J'étais assez niais, mais je suis ruiné, ruiné. Je fais venir cet argent sans consulter le conseil d'administration. Et si les actionnaires de l'Estrella m'intentent un procès, et le feront sûrement, je serai obligé de les rembourser. Et avec quoi? 22 000 kilos d'argent, cela fait plus de 400 000 $. N'en est pas la moitié maintenant que mes 7 000 kilos sont partis. Oh, démon de Sobbins, m'a-t-il assez porté la guigne? James Sharper, pâle comme un cadavre, gagna sa chambre. Et là, jusqu'à minuit, il se promena de long en large comme un fauve en cage, frappant du pied et rugissant des imprécations. Il s'arrêta soudain en entendant frapper à sa porte. Il courut ouvrir, croyant, contre toute espérance, qu'on lui rapportait une dépêche l'avisant de l'arrivée à bon port de son wagon d'argent. Il vit devant lui un garçon de l'hôtel, mais qui avait les mains vides. « Que voulez-vous ? » dit-il d'une voix bourrue. « Gentlemen, ce sont vos voisins qui quoi ? Achevez, imbécile ! Qui veulent dormir, gentlemen, et qui vous prient de faire un peu moins de... Et c'est pour cela que tu me déranges, misérable porc ! » hurla Sharper au paroxysme de la rage. « Allez, hors d'ici, ou je te tue, allez, va-va !» Et le directeur de l'Estrella del Plata, ayant saisi un des candélabres de bronze de la cheminée, le brandissait comme une massue. Le garçon, épouvanté, s'enfuit. James Sharper, d'un violent coup de pied, ferma la porte derrière lui. Sa fureur, accrue par ce grotesque incident, ne connut plus de bornes. Il se jeta sur son lit et s'y roula en poussant de féroces hurlements, au point que ses voisins, le croyant devenu fou, parlaient déjà d'aller chercher la police. Lorsqu'il se calma enfin, à bout de souffle, épuisé par l'excès même de sa colère, il dormit jusqu'à l'aube d'un sommeil lourd, se doucha et parvint à reconquérir son sang-froid. Les journaux qu'il se vit apporter étaient pleins de détails sur la révolution dans l'état du Sonora et sur l'affaire du wagon d'argent, ainsi appelait-il le hardi coup de main par lequel le général insurgé Lobo avait réussi à s'emparer du train emmenant les lingots de l'usine de Magdalena, et cela à moins de 30 miles de la frontière mexico-américaine. Tous les trains du Southern Pacific Railroad circulant dans le nord de l'état de Sonora étaient d'ailleurs arrêtés eux aussi par les révolutionnaires. Et plusieurs dépêches de Washington prétendaient que le gouvernement américain, d'accord avec le gouvernement mexicain, allait faire passer la frontière à ses troupes afin de rétablir l'ordre et de mettre Lobo et ses hommes à la raison. Cette nouvelle ranima un peu l'espoir de James Sharper. Qui sait, peut-être les soldats américains arriveraient-ils assez à temps pour reprendre le précieux wagon avant que Lobo et ses guerriers n'en aient mis le contenu en lieu sûr. Un peu moins abattu, Sharper sauta dans une voiture et se vit conduire au palais du gouverneur de la Californie. Une fiévreuse animation y régnait, qui parut de bon augure au directeur de l'Estrella de Plata. Il libella aussitôt une demande d'audience et, tout en attendant, apprit facilement que des préparatifs étaient faits en Californie et dans l'Arizona pour intervenir à la frontière mexicaine. Le malheureux Sharper ne fut reçu que le lendemain matin par le gouverneur de la Californie. Le haut fonctionnaire lui déclara que les pourparlers entre les gouvernements américains et mexicains marchaient rapidement et qu'une intervention des troupes américaines était probable dans le courant de la semaine qui allait suivre. « Mais mon argent, mon wagon d'argent, monsieur le gouverneur, C'est misérable pour le cacher, si ce n'est déjà fait. Je n'en verrai pas une once, pas une once. Ça, fit le gouverneur sans conviction. Enfin, je vais demander des ordres à Washington pour accélérer les opérations et 22 000 kilos d'argent, 22 000 kilos d'argent, mon wagon contient, entendez-vous, monsieur le gouverneur, vociféra Harper. Oui, je sais, mais permettez-moi de vous dire, monsieur Harper, que vous avez choisi un bien singulier moment pour faire cet envoi. Vous saviez pourtant bien que depuis plusieurs semaines, l'insurrection couvait dans le Sonora. Vos agents, la Magdalena, eussent dû vous en avertir. Mais oui, et que voulez-vous? Murmura Harper en levant les bras vers le plafond. Oh, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, allez! Harper, soupira et se tut. Il ne pouvait vraiment pas mettre le gouverneur de la Californie au courant de ses démêlés avec Filmer et John Robbins. Il se retira après que le haut fonctionnaire lui eut promis de faire l'impossible pour avancer le départ des troupes. De fait, 6 régiments d'infanterie et 2 de cavalerie partirent 6 jours plus tard de San Francisco à destination de la frontière. Mais ils n'eurent même pas à intervenir, car 6 heures après leur départ, arrivait à San Francisco une dépêche d'Hermosillo, signée du gouverneur de l'État de Sonora et annonçant la défaite et la capture du général Lobo par les troupes régulières mexicaines et la reprise du wagon rempli de barres d'argent enlevées par les insurgés. James Harper était à son hôtel où il se préparait à partir pour la frontière à la suite des troupes américaines, lorsqu'il entendit hurler ces étonnantes nouvelles par les vendeurs de journaux. S'étant fait apporter une feuille, il faillit s'évanouir de joie en prenant connaissance de cet événement aussi agréable qu'inattendu. Ainsi, son wagon d'argent était sauf. Les scellés mêmes étaient intacts, affirmaient les dépêches. Éperdu, haletant, presque fou, le directeur de l'Estrella de Plata se précipita vers la gare du Southern Pacific Railroad afin de se commander un train spécial pour aller au-devant de son wagon. Oh, je crois que c'est bien inutile, lui dit le directeur de la Southern. Mon agent de Magdalena vient de me télégraphier que votre wagon est en route vers la frontière, qu'il doit avoir passé à l'heure qu'il est, sous la protection d'une compagnie de réguliers mexicains. Oh, n'importe, je veux aller à sa rencontre, répondit Harper, qui trépignait d'impatience. À votre aise? 4 heures plus tard, car les voies étaient encombrées, James Harper filait à toute allure vers le sud, à bord d'un train composé d'une locomotive et d'un unique wagon.